Bonjour. Eh bien, vous êtes sur Graphite 94.9 FM, la radio curieuse. Et là, vous êtes avec Glissando, les curieux de musique classique et pas que. Alors, tiens, comme vous avez peut-être pris votre petit déjeuner il n'y a peut-être pas très très longtemps, moi-même j'ai mangé un petit lu. Vous connaissez les petits beurres, les petits lus qui viennent de Nantes? Alors, est-ce que vous savez que les 52 dents du petit lu représentent les semaines de l'année? Ah oui, comme on est là, à la nouvelle année, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, les quatre coins représentent quoi d'après vous? Eh bien, les quatre saisons. Et le biscuit? Il mesure 7 cm en référence aux 7 jours de la semaine. Et les 24 petits points qui s'identifient aux 24 heures de la journée, les petits points que vous pouvez voir sur le petit lu. Dégustez-en un et c'est trop bon. Alors aujourd'hui et cette semaine en particulier, nous allons parler de compositeurs français. On va déjà parler de Albéric Magnard, qui est né en 1865, et à Montmartre, d'ailleurs, au milieu d'une époque qui a vu naître en France beaucoup de futurs compositeurs, comme Chausson, Charpentier, Debussy, Ropas, Pierney. Oh là là, il y en a plein comme ça. Et Ravel, plus tard, en 1875, donc il avait 10 ans à cette époque. Il s'appelle Albéric, c'était le prénom de son parrain, Albéric II, qui était journaliste, homme de lettres, auteur de vaudeville, qui triomphèrent d'ailleurs sous le Second Empire. Albéric Magnard est issu d'une famille modeste. Sa mère, Émile Bauduaire, est la fille d'un peintre sur porcelaine. Son papa, Francis Magnard, est né à Bruxelles. C'était le fils d'une blanchisseuse, qui n'a pas eu de chance parce qu'elle a été abandonnée par son mari et du coup elle a élevé toute seule son fils. Et d'ailleurs, grâce au travail forcené de sa mère, elle fait de bonnes études à l'école Saint-Nicolas. En 1856, il devient employé à la perception du 8e arrondissement avec un salaire mensuel de 65 puis de 80 euros. Oh là là, il survit alors dans une misère qu'il n'oubliera jamais. Et bien plus tard, il va quitter l'administration et il devient chroniqueur à l'Événement et au Grand Journal, puis aussi au Figaro, qui deviendra un quotidien en novembre 1866. On remarque sa grande intelligence, sa mémoire d'ailleurs, qui deviendra vite légendaire, et une belle plume qui l'aurait conduit à l'Académie française s'il n'était mort un peu trop tôt. Et nous verrons pourquoi dans quelques temps. Il gravit du coup les échelons très vite. Il est devenu secrétaire de rédaction en 1874, puis co-rédacteur en chef, puis rédacteur en chef et directeur en mai 1879. En 20 ans, le petit agent des contributions est devenu l'un des personnages les plus importants, sinon les plus craints, du tout Paris. Les premières années d'Albéric sont heureuses, mais en avril 1969 survient un drame qui va marquer sa vie pour toujours. Sa mère présentait des troubles du comportement. Voilà qu'elle se défenestre et elle meurt quelques heures après. Le sentiment de perte pour l'enfant est terrible. C'est une plaie qu'il n'arrivera pas à cicatriser. Plus tard, en 1896, il épouse Julia Creton, une jeune femme intelligente et intuitive. Elle lui donnera deux filles, Ève et Ondine. Et le mariage de Magnard vérifie le mépris qu'il montre à l'égard des conventions sociales, mais surtout la sincérité de ses convictions. Pourquoi? Eh bien parce que Julia est issue d'un milieu très pauvre. Ses parents sont journaliers, donc elle n'a pas un centime de cette fameuse sacro-sainte dot à l'époque. Sa corbeille de noces n'est garnie que d'un petit garçon, René, de 5 ans, fils d'un voyageur de commerce allemand qu'elle avait connu avant. Eh bien, Magnard élèvera quand même René comme son fils et le couple sera parfaitement heureux. En 1898, Zola publie dans l'horaire son célèbre « J'accuse ». Manière le soutient immédiatement, dans une lettre qui sonne comme une fanfare.
« Bravo, monsieur, vous êtes un crâne. En vous, l'homme vaut l'artiste. Votre courage est une consolation pour les esprits indépendants. Il y a donc encore des Français qui préfèrent la justice à leur tranquillité, qui ne tremblent pas à l'idée d'une guerre étrangère. Marchez, vous n'êtes pas seul. On se fera tuer au besoin. »
En septembre 1899 a lieu à Rennes le procès en révision de Dreyfus, qui est condamné à 10 ans de détention. Il est retenu coupable avec des circonstances atténuantes. 10 jours après ce verdict, il est gracié par le président Loubet. Magnard est scandalisé et démissionne immédiatement de son grade de sous-lieutenant. Parmi les défenseurs de Dreyfus, il y a le célèbre verrier Émile Gallet, qui est en fait à Nancy et qui fait des choses si belles. Magnard le connaissait bien et l'admirait. Il lui dédiera l'hymne à la justice, composé en 1902, que nous pourrons écouter très bientôt. Au-delà du drame vécu par Dreyfus, Magnard y dénonce tous les dénis de justice et annonce le triomphe de la justice. Cet hymne a été la première œuvre exécutée lors du concert inaugural de l'Orchestre national Libéré, donné le 28 septembre 1944, sous la direction du chef Manuel Rosenthal. Au printemps 1904, Magnard et sa femme décident de quitter Paris. Ils trouvent la maison de leur rêve à Baron, dans l'Oise. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler d'Albéric Magnard. On est vraiment dans notre région. Et sa maison, c'est le manoir des Fontaines, où il s'installe au mois d'août 1904. Curieusement, va alors commencer en France, comme à l'étranger, une période faste pour la musique de Magnard. Alors, à Baron, il vit une vie calme, solitaire, au milieu de la nature, de ses livres, de ses partitions. Il fuit les manifestations officielles, les comités, il n'aime pas ça. Mais par contre, il ne s'éloigne guère de son havre de paix, et il travaille inlassablement. Et alors là, c'est une histoire que je vous raconte vraiment véridique. Le 1er août 1914, c'est la mobilisation générale. Et le 3 août, les hostilités débutent. Dès le 1er août, Magnard court de Senlis à Compiègne pour s'engager. Il veut s'engager dans la bataille, mais sans succès. Il conclut « On reprendra l'Alsace et la Lorraine sans moi !» Optimiste, au début des hostilités, Magnard déchante vite. Le 29 août, les Allemands sont à Compiègne et Baron va se trouver au centre des combats. Alors, le même jour, il envoie à Pantin sa femme Julia et ses filles. Malgré leurs supplications, Magnard reste à Baron avec son beau-fils René. Il a précisé à son entourage qu'il défendrait le manoir s'il était attaqué, disant en montrant son pistolet « Il y a 6 balles ». 5 pour les Allemands, 1 pour moi. Le 2 septembre, les Allemands occupent Baron et le 3 septembre, le drame éclate. Sans doute à la suite d'une dénonciation. Heureusement, René est à la pêche. Il sera sain et sauf. Au moment des sommations, un coup de feu part de la troupe. Magnard, dissimulé derrière les persiennes du cabinet de toilette, riposte, tuant un soldat, en blessant un autre. Des tirs de salve sont immédiatement dirigés contre la maison. Des officiers se rendent alors seuls chez le seul notable du village, le notaire. Il est décidé que le village sera brûlé et ses habitants seront fusillés. Heureusement, le notaire est assez éloquent et le jugement est modifié. Seul le manoir sera incendié et son propriétaire sera fusillé. À 12h45, le feu est mis au manoir où aucun signe de vie n'a été décelé durant la matinée. Alors, vers 15h, le feu fait rage. Un coup de feu est entendu. Un officier dit au notaire « Il a choisi la meilleure part !» En réalité, l'examen du pistolet retrouvé dans les ruines va montrer qu'il contenait 6 douilles, 100 balles. 5 étaient percutées, la 6e, non, et le chien était alarmé. La dernière balle est donc partie sous l'effet de la chaleur. Il est probable que Magnard a été tué ou blessé mortellement, peut-être lors des échanges du matin. Sa mort ne sera annoncée que le 21 septembre. Alors, pour saluer ce compositeur, Albéric Magnard, donc qui a vécu dans l'Oise, je vous propose tout de suite l'hymne à la justice. Vous venez d'entendre ce magnifique hymne à la justice d'Albéric Magnard, qui a donc vécu dans l'Oise, à Baron. Et vous avez pu remarquer qu'au départ, c'était nostalgique. C'est devenu grave grâce aux contrebasses et aux violoncelles avec leur son grave, justement. Ils nous prenaient aux tripes, on pourrait dire. Et la harpe que vous entendez qui apportait de l'espoir avec les violons. Et puis on entendait comme pleurer à un moment donné. Et la victoire qui arrivait avec les cuivres et les cordes pour justement le soulagement de la paix et de la justice. On va retrouver maintenant un autre compositeur qui s'appelle Arthur Honegger, qui est à peu près de la même période justement qu'Albéric Magnard. Il est né un peu plus tard, en 1892, et mort en 1955. Il était originaire de Suisse, mais il est né au Havre, et il était, après, parisien d'adoption. Après 2 ans passés au conservatoire de Zurich, il a intégré le conservatoire de Paris. Il s'est familiarisé alors, du coup, avec la musique de Fauré, Florent Schmitt, de Debussy, qui marqueront durablement son style. À Paris, comme beaucoup de musiciens à cette époque, il s'installe à Montmartre, au lieu de l'intelligentsia cosmopolite. Anti-révolutionnaire, Honegger n'en est pas moins totalement libre et indépendant, intemporel même. Il s'inspire du sport, écrit pour le théâtre, la radio, le cinéma. Il est bientôt associé avec Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, Louis Duré et Georges Auric à ce que on va appeler le groupe des 6, et sous la tutelle morale de Jean Cocteau et Éric Satie. Si Honegger partage au début la réaction contre le romantisme et l'impressionnisme que partagent ses amis, il prend rapidement ses distances. Ennemi de tout système, Honegger suit son chemin avec détermination. Il ne souhaite pas se couper du public et déclare « La musique doit devenir droite, simple, de grande allure. Le peuple se fiche de la technique et du fignolage. On doit parler au grand public sans concession, mais aussi sans obscurité. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et bien que citoyen suisse, il reste à Paris pour défendre la musique française contre l'hégémonie musicale de l'occupant. Il était critique musical, professeur à l'École normale de musique. Il fut donc proche du peuple, mais sans pour autant perdre en exigence. Très exigeant et accessible, voilà les 2 adjectifs qui caractérisent aussi bien le compositeur que sa musique. Un peu plus tard, en 1947, lors d'une tournée aux États-Unis, Honegger est victime d'un accident cardiaque et doit rejoindre rapidement Paris. En 1953, il est nommé membre étranger de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'année suivante, il est fait grand officier de la Légion d'honneur. Il est mort à Paris, le 27 novembre 1955. Je vous propose, par l'Orchestre Philharmonie Tchèque, dirigé par un grand chef d'orchestre que fut Charles Munch, et c'est un enregistrement qui avait été fait d'ailleurs en direct, un extrait de la symphonie numéro 2 pour orchestre à cordes et trompettes d'Arthur Honegger, et nous allons écouter le 3e mouvement, Vivace non troppo. Thank you. Voilà, avec le troisième mouvement de cette symphonie pour orchestre à cordes et trompettes de Arthur Honegger. Alors vous voyez déjà que c'est pas du tout la même musique que celle qu'on a eue avant. C'est déjà beaucoup plus avec des cordes nerveuses, même je dirais agressives. Un tempo rapide qui s'emballe, des cuivres brillants. Peut-être un son un peu âpre, plus âpre. Vous voyez, une musique voilà, qui est plus moderne, on va dire. Et nous retrouvons maintenant un compositeur que vous adorez certainement, Maurice Ravel. Ah, Maurice Ravel, compositeur français bien sûr. Il est né à Cibourg en 1875, il est mort à Paris dans le 16e d'ailleurs. Avec son aîné Claude Debussy, il fut la figure la plus influente de la musique française de son époque et vraiment le principal représentant du courant dit impressionniste du début du 20e siècle. Il a écrit le concerto pour la main gauche, entre autres. Donc ce concerto pour la main gauche, en ré majeur, est un concerto pour piano et orchestre, en un seul mouvement, composé entre 1929 et 1931, créé seulement à Vienne en 1932 par son dédicataire, le pianiste Paul Wittgenstein, qui a perdu son bras droit au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, l'origine de cette œuvre à la virtuosité considérable, réside bien sûr dans sa partie pianistique, qui est écrite seulement pour la main gauche. Un an après l'achèvement du boléro de Ravel, Ravel reçut presque simultanément deux commandes de concerto. La première commande vint du chef d'orchestre Serge Koussevitzky, qui s'apprêtait à célébrer les 50 ans de l'Orchestre symphonique de Boston, pour qui il allait composer le concerto en sol. Un autre, donc, concerto. La seconde commande venait donc de ce fameux pianiste Paul Wittgenstein, frère du célèbre philosophe Ludwig Wittgenstein. Et le pianiste avait donc perdu le bras pendant la guerre, Première Guerre mondiale, sur le front russe. Mais il n'avait pas renoncé à son art, malgré cette infirmité, commandant des œuvres pour la main gauche à quelques-uns des plus grands compositeurs du moment. Outre Ravel, il sollicita Korngold, Franz Schmidt, Benjamin Britten, Richard Strauss, Sergei Prokofiev. Le compositeur n'entendit jamais son œuvre jouée dans sa version pour piano et orchestre. Il assista à la création par Paul Wittgenstein dans une version arrangée pour deux pianos à Vienne en novembre 1931. Cette création fut pour le moins houleuse, et il met un terme à la collaboration entre les deux hommes. En effet, le pianiste avait pris la liberté d'effectuer quelques « arrangements » entre guillemets dans l'œuvre. En fait, c'était de profonds remaniements. Et il voulait que celle-ci soit mieux à sa convenance. Il disait « Je suis un vieux pianiste et cela ne sonne pas », avait-il déclaré à Ravel pour justifier ses libertés. Ravel répliqua « Je suis un vieil orchestrateur et cela sonne ». Le compositeur quitta alors précipitamment Vienne. La première audition parisienne, initialement prévue le 25 mars 1932, fut annulée en raison de la contrariété de Maurice Ravel quant aux libertés excessives prises par Paul Wittgenstein par rapport à la partition. Je trouve ça un peu normal. Différée, cette audition eut lieu toutefois le 17 janvier 1933 avec le pianiste et l'Orchestre symphonique de Paris sous la direction de Maurice Ravel. Le pianiste ayant l'exclusivité du concerto pour 6 ans, il était beaucoup trop tard pour Ravel lorsque l'œuvre fut créée à Paris dans sa forme originelle par Jacques Février sous la direction de Charles Munch. Et bien plus tard, Wittgenstein regretta ses paroles et rendit en fait justice au compositeur, à Ravel. Il disait « Cela me prend toujours du temps d'entrer dans une musique difficile. » Je suppose que Ravel en fut très déçu et j'en fus navré. Mais on m'a jamais appris à faire semblant. Ce n'est que plus tard, après avoir étudié le concerto pendant des mois, que je commençais à en être fasciné et que je réalisais de quelle grande œuvre il s'agissait. Pour le soliste, affronter ce monument peut relever de la gageure. La partie solo est extrêmement difficile, la main gauche seule devant couvrir tout le territoire des deux mains. Voici un extrait. Même pas un extrait, d'ailleurs. On va l'écouter en entier, c'est trop, trop beau. Le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, qui est interprété par l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par André Clayton, et au piano, le célèbre Samson François, qui nous a quittés déjà il y a longtemps. Chers auditeurs, j'espère que vous avez savouré ce magnifique concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Quelle belle orchestration il nous a fait, ce Maurice Ravel. Il était vraiment génial. Et je vous invite à aller au concert pour écouter ce concerto de la main gauche, mais aussi pour voir, parce que c'est quand même tout à fait particulier. Vous voyez, le pianiste, ben, forcément, maintenant, ils sont pas amputés, Dieu merci. Donc, ils gardent leur main droite sur le genou droit, voilà, pour pas s'en servir. Ça doit pas être évident, ça doit démanger de temps en temps. Et la main gauche qui fait tout ce travail. Et c'est vrai que quand on ne sait pas que c'est que pour une main, on n'a pas l'impression, en fin de compte, on a plutôt l'impression que c'est fait à deux mains. Voilà, comme tout pianiste. Eh bien, chers auditeurs, il va être l'heure bientôt de nous quitter, déjà. Voilà. Mais j'espère qu'on va se revoir la semaine prochaine, que vous allez revenir à l'antenne de Graphite 94.9 FM pour notre émission de musique classique qui s'appelle « Glissando ».